Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 18, l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent.
Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été de nature anxieuse. Chaque fois qu'une échéance importante approche, je sens une boule de stress grandir en moi. Cela se manifeste physiquement, je me ronge les ongles et je sens mon corps se crisper. L'anxiété pour moi n'est pas qu'une émotion passagère, c'est une réaction viscérale à l'incertitude.
J'ai très peur d'aller en voyage scolaire, et d'ailleurs depuis longtemps, et j'avais un peu de mal à aller aborder d'autres groupes, d'autres personnes que je connaissais pas tellement. Donc après, ça se débloque très souvent avec le collège. On s'habitue un peu plus. Enfin, moi, en tout cas, je suis bien habituée avec le collège et j'ai plus trop de ces problèmes.
Alors Béatrice, tu as écrit un livre qui s'appelle « Enfants anxieux, enfants peureux ». Tu en vois beaucoup en consultation des enfants ou des adolescents anxieux ?
Oui, j'en vois vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est presque... La majorité des enfants ou des adolescents que je vois ont à un moment ou à un autre des difficultés anxieuses, des troubles anxieux. Donc oui, c'est effectivement très très fréquent. Et alors, tout dépend de l'intensité. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, mais ça peut gâcher vraiment la vie de beaucoup. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et c'est très très important d'aider les enfants, les adolescents et les adultes du reste à dépasser cette anxiété qui les freine considérablement dans leur vie quotidienne.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'anxiété ?
Il y a une émotion extrêmement importante dans nos vies, c'est la peur. La peur, c'est une émotion essentielle qui nous protège des dangers et nous permet de réagir et de nous en protéger. Donc ça, c'est absolument très, très, très important. L'enfant, il a peur d'escalader le balcon parce qu'il va tomber par la fenêtre. Et cette peur-là, il doit l'écouter parce qu'elle le protège. Il a peur de mettre la main dans le feu. Et cette peur-là, il doit l'écouter parce qu'il va se brûler, etc.
Ouais, donc elle est utile.
Elle est très, très utile. Elle est absolument même essentielle. Et elle nous protège tous, enfants, adolescents, adultes, tout le monde. Mais l'anxieux, le problème, c'est que il ressent de façon complètement exagérée cette émotion dans des situations qui ne sont pas justifiées. En réalité, il a peur de dangers qui n'existent pas. Ou alors, il exagère de façon incroyable et tout à fait inutile des dangers qui éventuellement pourraient exister, mais qui ne sont d'abord pas du tout certains et puis qui ne sont pas aussi dramatiques que ça.
Tu peux nous donner des exemples ?
Par exemple, les enfants et les adolescents, enfin l'enfant... Par exemple, il a un imaginaire dominant. Donc, sa perception des choses est dominée par l'imaginaire. L'enfant, il va passer par une période comme ça de peur. Par exemple, la peur des cambrioleurs, des voleurs, des monstres, etc. Le soir, notamment quand il va aller se coucher. Évidemment qu'il n'y a personne sous son lit. Mais lui, dans son imagination... Eh bien, ça serait tout à fait possible qu'on vienne comme ça le dévorer tout cru. Si tu veux, ces espèces de croyances, en réalité, qui peuvent perdurer longtemps à l'âge adulte. Par exemple, je vais m'inquiéter parce que ma fille ne répond pas à mon message. Alors, si elle ne répond pas tout de suite à mon message, c'est qu'il est sûrement arrivé quelque chose. Voilà, il y a tout d'un coup une espèce de récit imaginaire terrifiant, alors qu'en réalité, tout simplement, son téléphone est éteint. Il y a une extrapolation, je dirais, d'un danger, voilà, qui enferme dans un sentiment qui peut être un sentiment de panique intense.
Il y a différentes formes d'anxiété. Tu peux nous expliquer un petit peu lesquelles ?
Alors oui, les troubles anxieux, le trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'inquiétude planante sur l'ensemble des situations, c'est-à-dire que l'analyse des situations est toujours colorée par la peur. C'est un peu ce que je disais sur la fille qui répond pas au SMS et tout de suite le scénario de sa mère, ça va être qu'il lui est forcément arrivé quelque chose de dramatique. Bon, ça, c'est l'anxiété généralisée. Ensuite, il y a le trouble phobique. Donc, le trouble phobique, c'est la peur d'une situation précise. Par exemple, la peur des araignées, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les phobies simples. Face à une araignée, il va y avoir une panique exagérée. Dans les phobies, il y a des phobies qui sont plus complexes que ces phobies simples, qui peuvent être donc la peur des araignées, des certains animaux, des insectes, de l'eau, du noir, etc. Mais il peut y avoir aussi une peur assez complexe qui est l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de se déplacer en dehors d'un cercle très, très, très familier. Alors, ça peut être plus ou moins intense, mais ça peut empêcher certaines personnes de, par exemple, de sortir de chez elles.
Prendre les transports en commun.
Ouais. Alors justement, la peur des transports, il y a la peur de l'avion, une phobie très connue, qui s'apparente un tout petit peu quand même à l'agoraphobie. La peur des transports, voilà, ça s'apparente aussi à l'agoraphobie. Il y a également une peur assez qu'on voit assez souvent chez les enfants et les adolescents, c'est la peur du sang. Donc, c'est compliqué de leur faire faire une prise de sang, par exemple, parce qu'ils vont s'en inquiéter terriblement. Et d'ailleurs, parfois, avoir des malaises parce que la peur va produire une bradycardie, un ralentissement du rythme cardiaque. Ils peuvent tomber dans les pommes. La peur aussi de vomir. Il suffit qu'ils aient été malades une fois et que tout d'un coup, il y ait une peur de vomir qui s'installe. Parce qu'en réalité, la phobie, elle s'installe extrêmement vite. Parce qu'à un moment, il y a une association dans l'esprit, dans le psychisme, entre une situation qui a été désagréable et un moment, quoi. Un moment désagréable à une situation. Et à ce moment-là, pof, le phobique va chercher à éviter de renouveler cette situation. Donc, il va choisir de ne pas s'y confronter. Le problème, c'est que moins il s'y confronte, plus sa peur augmente. C'est-à-dire que dans le système phobique, l'évitement renforce la peur. Donc, évidemment, ce n'est pas la bonne solution. Le trouble panique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est-à-dire un sentiment de peur alors intense, la peur de mourir, en fait. Et je vois beaucoup ça chez des jeunes filles. Je pense qu'il y a un moment de vulnérabilité extrêmement fort, notamment chez les jeunes filles entre 15-16 ans et 20-25 ans. Alors, je ne suis pas neuropsychologue, donc je ne sais pas s'il y a certainement l'interférence de facteurs physiologiques, peut-être, ou alors c'est vraiment ces jeunes filles de 17-18 ans qui doivent affronter des situations qui leur semblent inquiétantes, une vie amoureuse,
des études,
etc. En tous les cas, elles sont toutes d'un coup, de façon extrêmement violente, submergée par une peur panique. Ça commence par parfois des fourmillements, le sentiment d'avoir trop chaud, d'avoir le cœur qui s'accélère. Et alors, elles se mettent à l'écoute de ces symptômes physiques. Et plus elles se mettent à l'écoute de ces symptômes physiques, plus la peur augmente et elles peuvent parfois avoir la sensation qu'elles ne vont plus respirer. En fait, la sensation d'une mort imminente. Donc, c'est extrêmement désagréable. Voilà, donc il y a ce trouble panique. Et enfin, il y a les TOC. Les TOC qui sont des troubles obsessionnels compulsifs et qui vont être invalidants en fonction de la durée que ça prend dans la vie des gens. Par exemple, est-ce que se laver les mains une fois, deux fois, trois fois, c'est moins invalidant que de passer son temps à se dire « mais je ne me suis pas assez bien lavé les mains et je recommence ». Ou bien vérifier si sa porte est bien fermée. Vérifier une fois, c'est une chose. Vérifier 10 fois, c'est différent. Se dire qu'il faut absolument que je fasse tel ou tel geste avant de me coucher, par exemple, ça dépend le temps que ça prend. En fait, là encore, des croyances fausses et l'idée qu'on va avoir faire un geste, des rituels vont nous protéger d'un danger. Les TOC peuvent être aussi des TOC de pensée, c'est-à-dire on peut avoir une espèce d'obsession de pensée qui nous gêne énormément.
Donc tu nous as parlé des TOC, des crises de panique, des phobies, etc. Quelles conséquences ça peut avoir, toutes ces manifestations d'anxiété, sur la vie des personnes ?
C'est très invalidant parce que ce ne sont que des stratégies pour essayer de les protéger d'un danger qui en réalité n'existe pas. Et donc ça leur prend une énergie énorme et ça empiète surtout sur la qualité de leur vie. Ils s'empêchent de faire des choses, donc c'est un monde qui se rétrécit. Oui, évidemment, c'est plus ou moins invalidant parce que celui qui a peur de l'avion, on ne prend pas l'avion tous les jours. Celui qui a peur de l'ascenseur et qui habite au 8e étage, plus compliqué déjà. Celui qui a des TOC, simplement, qui doit plier sa couverture 3 fois, ça ne prend pas trop de temps. Mais voilà, quand ce sont des rituels de lavage ou de vérification qui prennent un temps fou, ça prend une énergie inutile, quoi. Et puis... dans les cas de, par exemple, d'agoraphobie, ça rétrécit considérablement. Ça peut aussi empiéter sur les relations. Parce qu'on n'a pas parlé de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est la peur des autres, en réalité. Et donc, il peut y avoir la peur d'aller dans des lieux où il va y avoir trop de monde qu'on ne connaît pas. On va, tout d'un coup éviter de nouvelles rencontres parce qu'on ne peut voir que des gens avec qui on est extrêmement familier. Et puis, ça peut s'associer, par exemple, dans le travail, ça peut être très invalidant parce que l'anxiété sociale, elle peut être assortie d'une anxiété de performance, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur, je ne vais pas parler en public parce que je vais être nulle. Toutes ces peurs vont véritablement gâcher la qualité de vie de beaucoup, les faire souffrir et rétrécir leur univers.
Donc c'est quand même important d'arriver à dépasser cette anxiété. Comment est-ce qu'on la traite, l'anxiété ?
Avec les enfants et les adolescents, moi, là encore, je travaille très très souvent avec les familles parce qu'il y a aussi très souvent une dynamique familiale qui génère pas mal ça. Les chiens font pas les chats, donc... parfois, des parents anxieux vont transmettre leur anxiété à leur enfant. Par exemple, une mère qui serait phobique des chiens, dès qu'elle voit un chien, elle va s'éloigner ou l'enfant n'est pas idiot. Donc, peut, malheureusement, l'anxiété, c'est une chose extrêmement partageable. Ça, on aimerait bien qu'elle ne le soit pas, mais elle l'est considérablement. C'est intéressant de travailler avec les parents. L'anxiété sociale, c'est quelque chose qu'on voit bien dans certaines familles qui sont... plus en difficulté avec la confrontation à des univers qu'ils ne connaissent pas.
Comment est-ce qu'on le traite alors ? Tu dis que tu travailles avec les familles, avec les parents ?
Oui, donc on réfléchit sur... par exemple, moi je dis toujours aux parents, à la fois il faut être bienveillant, mais en même temps il faut aussi être encourageant, c'est-à-dire aider de façon progressive et homéopathique l'enfant à se confronter à la situation qui lui font peur. Je prends l'exemple de l'enfant qui a peur de l'eau. Évidemment qu'on ne va pas le balancer dans le grand bain, il ne sait pas nager, c'est une évidence. Mais en même temps, on peut aussi le prendre dans les bras, peut se rapprocher de l'eau quand c'est au bord de la mer, et puis y aller tout doucement. Et donc faire les choses de façon extrêmement douce, progressive, mais avec quand même l'idée qu'on va finir par y arriver. Et donc ensuite, beaucoup le féliciter. Et d'ailleurs, l'enfant qui a dépassé ses peurs, il est extrêmement content. C'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser s'enfermer dans les peurs. Et l'adolescent aussi, qui a dépassé ses peurs, il est très, très content. Mais il y a quand même des périodes de la vie où ces phobies, par exemple, sont transitoires. Je pense à une période de l'enfance, qui est ce qu'on appelle la période oedipienne, entre, en gros, 3 et 6 ans. L'enfant a des phobies, des peurs de situation, notamment la peur du noir, qui correspond à des émois assez pénibles qu'il traverse, lui, dans son développement. Et il va finalement focaliser sur des situations très concrètes ces émois-là, ces émotions-là. Bon. À l'adolescence, puisque l'adolescence est aussi un mouvement d'éloignement par rapport aux parents, il va y avoir des phobies qui vont s'exprimer. D'abord, il peut y avoir un peu d'agoraphobie à ce moment-là. Il peut y avoir pas mal de phobies qui vont tourner autour du corps, autour de l'image du corps, puisqu'il est confronté au remaniement pubertaire et que donc, tout d'un coup, il peut focaliser sur un élément du corps toute sa détresse. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Par exemple, j'ai un nez trop gros et si mon nez était plus petit, tout irait mieux. Donc évidemment, ce sont des croyances fausses qu'il faut arriver à démonter à expliquer et à démonter. Les thérapies cognitivo-comportementales sont assez efficaces parce que justement, elles vont dans le sens de désensibilisation progressive, d'une mise en situation. Et au fond, c'est lutter contre les évitements. C'est un peu ce que je disais quand les parents sont confrontés à des enfants petits qui ont des peurs. Il faut y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais avec la conviction qu'on va finir par y arriver. Et ben dans les TCC, c'est un petit peu ça. Il y a une désensibilisation progressive, un accompagnement, une bienveillance et ensuite une confrontation à la situation qui va faire que la phobie va tomber, la peur va tomber.
Est-ce qu'on peut vraiment en guérir de l'anxiété ?
Moi, je pense qu'on peut, en tous les cas, vivre mieux avec son anxiété. C'est surtout ça, hein. Parce qu'on peut avoir des moments d'anxiété, tout le monde a des moments d'anxiété, puisque de toute façon, l'anxiété, elle est liée aussi à notre sort de mortel. Je veux dire, on sait tous qu'on est là à un moment et puis qu'ensuite, on ne sera plus là. Donc, il y a une angoisse comme ça de séparation qui est inhérent à chaque être humain. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que l'anxiété ne soit pas envahissante, n'envahisse pas la vie psychique, n'envahisse pas le quotidien, ne nous empêche pas d'agir, d'aller vers les autres, d'avoir des aventures, de faire des connaissances, d'aller, de s'ouvrir au monde, quoi. Et de ne pas avoir une vie complètement rétrécie.
Merci beaucoup Béatrice. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.